Le Blabla 99.1 et 102.4 FM.
Le Covid-19 est russe, on l'a gommé.
Pas passer cette crise.
Je pense que je m'enferme.
The French government is requisitioning all.
Si Xi Jinping, 1月28日,
plus contagiati dal virus a Occidente.
Et l'après-crise sera ce que nous en ferons tous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bien bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Mix des Cultures. On est là, on est ensemble, 17h-18h dans ce Blabla Mix spécial Covid pour ce vendredi 8 mai. Vous allez retrouver d'ici quelques minutes notre chère chroniqueuse Lady pour sa chronique jeux vidéo. Attention, elle a quelques pépites encore. On retrouvera notre très chère Marie du côté de Fécamp avec un billet d'humeur qui annonce la fin des vacances scolaires, universitaires. Et puis, le retour, enfin, l'éclosion, ça n'arrête pas, en tout cas les nouveaux dispositifs qui sont proposés en ce moment aux étudiants. On rejoindra notre chroniqueuse aussi, Elvire Lecossec, avec son billet pour le ciné. On retrouvera bien sûr le haïku du jour, ce poème japonais qui sera présenté encore une fois par une élève de l'école Marot. Et puis aujourd'hui, notre invité du jour est le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime, Serge Boyer, qu'on aura grand plaisir à avoir dans quelques instants, pour nous parler d'un dispositif que les CPAM de Seine-Maritime vont mettre en place dès ce lundi 11 mai. On parle d'un dispositif qui s'appelle Contact Tracing. Et on terminera notre émission pour cette dernière de la semaine avec Théo. Théo qui est un jeune citoyen de Sotteville-lès-Rouen et il va nous parler justement du haut de ses 17 ans. Il va nous parler un petit peu de sa vie en confinement. On finira même l'émission avec lui en ce Blabla Mix spécial Covid de ce vendredi. Allez, sans plus tarder, retour de la musique, puisque la musique, vous le savez, il y en aura du bon, du très très lourd, du sévère, même on va commencer plutôt énervé. Le titre, La mort sur le dance floor, bah ouais, parce que ça nous manque quand même le dance floor. Le groupe Vitalik, à l'instant sur le Mix des Cultures. Principe actif HDR, on est là. Le groupe Vitalik, à l'instant sur le Mix des Cultures, La mort sur le dance floor. Ah, le dance floor, qu'est-ce qui nous manque, ce dance floor? Bah oui, à part danser chez nous en ce moment, on danse pas dans les boîtes, on danse pas dans les bars ambiance muy caliente. Non, voilà, tu danses chez toi, et puis dans la rue ou dans le bus si tu veux, mais c'est tout.
De 17h à 18h, c'est le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif.
Et de retour dans notre Blabla Mix spécial Covid avec notre chère Lady. Alors là, on ne parle pas de zombies aujourd'hui, ma chère Lady. On parle de jeux vidéo. Mais on va parler, je pense, je suis persuadé, on va parler d'un jeu assez doux. Bonjour Lady, comment tu vas?
Bonjour. Tu veux un jeu doux? J'ai un jeu très très doux qui détend extrêmement bien.
Ah ouais? Alors, aujourd'hui, tu nous parles de quel jeu, ma chère Lady? Attention, alors, j'ai peur ou pas?
Je vais vous parler de Death Coming.
Ah oui, d'accord.
En français, la mort arrive. Alors, on va incarner un personnage qui travaille pour la mort et notre but, ça va être de tuer tout le monde.
Waouh! Ah ouais, d'accord. Donc là, tu nous gâtes.
On passe du côté des méchants aujourd'hui.
Que faut-il faire sur ce jeu, ma chère Lady?
Alors, c'est un petit jeu en pixel art. Pixel art, c'est des dessins assez sans vraiment beaucoup de couleurs, mais avec beaucoup de pixels, mais qui peuvent quand même avoir un côté artistique assez joli, comme ce jeu de Death Coming, qui est assez joli, assez sobre, mm-hmm. pour du pixel, mm-hmm. qui, on va incarner l'acolyte de la mort, qui va nous donner des missions. Du coup, au début, on va se retrouver sur une ville, juste une grande ville avec une grande map, et vu du dessus, on va devoir se débrouiller pour tuer le plus de personnes possible avec l'environnement.
D'accord, c'est un peu comme GTA, ça, à l'époque, non ?
GTA, c'était aussi... Oui, à l'époque, mais c'était les premiers, c'était très très vieux, ça.
Ah oui, bah excuse-moi. On a quelques années d'écart.
Oui, je les ai pas connus, ceux-là, malheureusement. C'est...
Donc, que faut-il c'est faire ? Donc, il faut aller tuer les gens, on se balade dans la rue, paf hop,
non,
on
non,
fin
nous,
à leur vie.
Nous, on est en god mode. Ça veut dire qu'on va, on n'est pas un personnage, on est au-dessus et on voit tout.
C'est-à-dire...
on est la main de la mort, en fait, mais on n'est pas un personnage qu'on voit dans le jeu. Notre souris, c'est notre main. Et par exemple, si on voit quelqu'un qui passe au-dessus d'un pot de fleurs, on va aller bouger le pot de fleurs pour le faire tomber dessus pour le tuer.
Ah oui, ça me rappelle un film Destination Finale, ça, un petit peu.
Oui, et ça a un rapport justement apparemment avec Destination Finale, c'est inspiré. Mmh. Et dès que, par exemple, va y avoir un fil au-dessus d'une piscine électrique, on va faire en sorte que le plus de monde possible va dans la piscine, et on va couper le fil électrique pour tuer tout le monde dans la piscine.
Ah oui, d'accord, c'est...
on va manipuler les feux rouges pour faire des accidents, on va faire exploser des bidons, ce genre de choses. Ouais, et c'est... le but, c'est faire en le moins de mouvements possible, le plus de morts. À force, la ville, elle s'épuise, il y a de moins en moins de monde, et il faut tuer le plus de monde possible pour avoir le meilleur score.
Une partie, par exemple, ça peut durer combien de temps ?
Ça dépend. Au début du tutoriel, on va dire qu'on passe 10 minutes sur une partie, et plus le temps passe, plus les épisodes sont longs. À chaque chapitre, on a de nouvelles sortes de tuer des gens. Et il y a des choses qui s'ajoutent. Par exemple, il y a des gardes qui vont nous empêcher de faire ce qu'on veut. Il y a des petits anges qui, dès qu'ils vont nous voir, vont essayer de nous tuer, ou ce genre de choses. Ça évolue avec le temps.
Ça fait vraiment comme le film Destination Finale, où le hasard, il n'y a pas de hasard, c'est la main de la mort qui supprime et qui emporte les vies avec elle, quoi.
Voilà.
Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce jeu-là, mis à part...
C'est la stratégie, parce qu'il y a quand même un petit côté stratégique, un petit côté puzzle game, mm-hmm. que j'aime bien, et aussi le pixel art, vu que j'aime bien travailler sur le pixel art. Ça m'inspire des fois.
Donc quand tu dis pixel art, c'est un petit peu comme Minecraft, ces espèces de pixels grossiers.
Minecraft, c'est du voxel, c'est du 3D, alors que là, on est sur du 2D.
Et du coup, on retrouve ce jeu Death's Coming sur quelle plateforme ?
En ce moment, gratuitement, cette semaine, sur Epic Games, jusqu'à jeudi prochain, vendredi prochain. Ça a été développé par Next Studio, édité aussi par Next Studio. C'est sorti en 2017, le 6 novembre. Et c'est Peggy 16, donc si vous avez moins de 16 ans, évitez.
Les parents aussi, soyez attentifs hein, quand même. Hein.
Oui, on le répétera jamais assez, les jeux vidéo ne rendent pas violents, mais par contre, le manque d'éducation, si. Du coup, il faut apprendre à éduquer les enfants sur l'Internet.
Exactement. Donc ça, c'était le jeu aujourd'hui, Death's Coming. Ok, à télécharger gracieusement aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, sur la plateforme Epic Games. Très chère Lady, bon week-end à toi.
Bon week-end à toi aussi, et puis je vais vous laisser sur une petite musique, du coup.
Oh oui, encore une douce et charmante musique d'un groupe
oui, réconfortante.
Et d'un groupe que tu adores, que tu surkiffes, qui s'appelle
Ultra Vomit.
Oh là 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 là, ça m'étonnait aussi que ça soit un autre groupe. Du coup, le titre Un chien géant, ça arrache les oreilles. Ça donne la pêche en tout cas, hein. Je peux dire que ça, c'est quand même un son pour le déconfinement immédiat. Tout de suite, on se quitte avec Ultra Vomit et le chien géant sur le mix des cultures.
Bon week-end.
Ciao.
Bisous.
Nous sommes tous prisonniers de cette immonde bestiole, de ce satané clébard, de ce maudit crapaud. Les politiques ferment les yeux, personne ne bouge. Pourtant, il faudra qu'un jour voir la réalité en face. Un chien géant, c'est comme un chien mais en plus grand. Et nous sommes tous enfermés dedans. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien du tout. Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géant. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien.
Un chien géant du groupe Ultra Vomit à l'instant sur le mix des cultures.
Le Blabla Mix 99.1 et 102.4 FM.
Et c'est l'heure, c'est le moment à cette heure-ci, même précisément, tous les vendredis, généralement, hein, sauf quand elle est en vacances, notre chère Marie du côté de Fécamp nous partage son billet d'humeur après un retour de vacances exceptionnel, vous vous en doutez. Oui, parce que c'était les vacances des scolaires, des minots, de l'université, des collégiens, des lycéens. Eh bien, retour avec de nouveaux dispositifs aussi proposés à l'université, aux étudiants. Tout de suite, Marie et son billet d'humeur.
Aujourd'hui, la vie n'a pas tellement changé. On est toujours sur une bonne vieille routine de confinement, avec ses hauts et ses bas. Mais voilà, les vacances sont terminées. C'est mon retour d'ailleurs, mais c'est aussi le retour des fabuleux cours à distance pour les étudiants qui se débrouillent tout seuls et des parents qui aident les plus jeunes à faire leurs devoirs. Une vraie partie de plaisir pour tout le monde. On est tous très contents de retourner là-dedans. Mais surtout, ce qui a changé pour les étudiants, en dehors de l'arrivée des quelques partiels ou des quelques devoirs maison ou des nouvelles épreuves inventées par les professeurs car on est en confinement et on sait pas trop comment faire, mais faut quand même avoir quelques notes sur le bulletin histoire de dire on nous a pas donné notre année, et c'est l'ouverture d'e-candidat. Alors, e-candidat, qu'est-ce que c'est? Parce que ce n'est pas connu par tout le monde, c'est logique, tant qu'on en a pas besoin, on ne le connaît pas. Eh bien, c'est comme Parcoursup, la fameuse plateforme ouverte principalement aux lycéens, mais aussi aux gens, tout simplement, qui veulent s'inscrire dans d'autres cursus, pour leurs études supérieures. E-candidat, c'est la même chose, mais que pour les universités. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris la différence entre les deux. Voilà, Parcoursup, tu ne candidates peut-être que pour la première année de licence. E-candidat, c'est tout le reste de l'université, c'est super, c'est comme les Pokémon, t'as le Pokémon de base et tu as l'évolution. E-candidat et l'évolution de Parcoursup. Donc voilà, une plateforme où tu te sens comme dans un réseau privé, car dès que tu changes de ville, tu dois créer un nouveau compte. Oui, c'est vraiment très sympa. Une pensée pour ceux qui s'inscrivent dans 8 universités différentes, alors qu'ils n'arrivent pas à se rappeler d'un seul de leurs identifiants, car ça serait trop facile d'avoir juste ton nom et ton prénom. Non, non, c'est une combinaison de lettres et de chiffres qui sont peut-être en fait une énigme à décoder. Voilà, et si tu décodes l'énigme, eh bien tu as ta place que tu désires tant dans l'université. Pour ma part, on en est encore loin, on est encore très loin de l'arrivée. Mais aussi l'autre joie, quand on envoie sa candidature, que ce soit pour un travail ou pour des études, là on est sur toutes les candidatures, c'est la fameuse lettre de motivation. Voilà, donc une lettre qui obéit à la fameuse règle. Alors vends-toi, fais un truc beau, soigné, et qui montre que tu es la seule pour ce boulot, tu donnes tout ce que t'as, mais surtout, faut que ça tienne en une page. Alors, je veux bien me vendre, mais en une page, c'est un peu compliqué, non? Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça un peu paradoxal. Tu donnes tout ce que t'as, mais tu fais court quand même. Pas de soucis. Donc, on va pas se mentir, nos lettres viennent globalement du même modèle qu'on a écrit soit cette année, soit il y a quelques années, et que l'on met à jour pour chaque nouvelle candidature. On change quelque chose par-ci, par-là, histoire que ça corresponde. Et donc, quand tu accumules les lettres de motivation pendant plusieurs jours d'affilée, elle commence un peu à perdre son sens. Tu sais que ce sont des mots, que la première fois que tu l'as écrit, tu trouvais que ça sonnait bien, mais qu'à force, tu l'as tellement recopié que même ton nom, tu ne le reconnais plus, ça n'a plus de sens, plus rien n'a de sens, tu en as juste marre, et tu finis par te dire que la phrase « Prenez-moi s'il vous plaît, je serai gentil » ferait finalement bien l'affaire. Mais dans le doute, comme ça ne fait pas une page, tu ne mets pas que cette phrase. Allez, moi je vous souhaite un bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.
the feeling so strong and so tender. Do a dance with me to a life fantasy. Just for one day, a total surrender.
Une version plutôt calme, on dira, la version lambada du groupe Season Affective Disorder, issue de la compilation Sick Sad World Anti-Covid Cover, que je t'invite fortement à aller retrouver sur le site Bandcamp. Tu peux même acheter des titres, tu peux même faire des dons, et tout ça, ce sera pour qui ? Le Secours Populaire. Donc vas-y mon pote, vas-y ma pote, fais-toi plaisir, et on partage cet élan de solidarité.
Le Blabla Mix, 99.1 et 102.4 FM.
Et nous sommes de retour dans ce Blabla Mix avec le billet pour le ciné. Le billet pour le ciné, c'est bien sûr Elvire qui est parmi nous et qui aujourd'hui, bonjour ma chère Elvire, qui aujourd'hui, on voyage, on s'en va loin à cette porte, pas très loin de ce déconfinement, j'en suis sûr.
Exactement, on est vraiment tout près. Salut Romain, merci de m'accueillir comme tout depuis le début de cette séance Blabla Mix sur le mix des cultures. Et donc, eh ben, bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, du déconfinement, du confinement et du coronavirusé ou pas coronavirusé. Ça y est, on peut maintenant, on peut décompter, nous préparer, penser à autre chose, peut-être, sans oublier surtout. Nous sommes vendredi 8 mai, jour férié ou pas. Pas de repos pour les braves. Bah tiens, on dirait que ça commence bien. Bonne annonce.
La nuit, c'est le plus dur à occuper. Je peux toujours pas dormir, j'ai pas le droit. Alors la nuit, j'attends que ça passe et puis j'essaie de faire un rêve. Et tout le monde peut penser ce qu'il veut, on peut très bien vivre sans dormir. Le sommeil, c'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est le rêve. T'es prisonnier de cette histoire. T'as encore le droit de dormir une fois et puis après, c'est fini, tu meurs.
C'est jamais qu'un rêve.
Ouais.
Il a quand même pas pu disjoncter à ce point, quoi, pas à cause d'un rêve.
Personnellement, je sais pas à cause de quoi on disjoncte.
Hein. Moi non plus, Romain.
Où vas-tu avec ton avion, bel étranger ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous aimerions parler à Johnny Gott.
Qui ça ?
Non, c'est dégueulasse, t'as pas le droit ! J'ai pas dormi, j'ai rêvé, c'est tout ! J'ai rêvé que je sache, c'est pas dormir !
Quelqu'un qui a disjoncté, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte à soleil, hein, laisse-moi rien.
Qui a parlé de règlement de compte ?
Ce qu'on ressent là des tueurs.
Toi, à la limite, il aurait plutôt confiance. Mais toi, il redoute.
Mais t'es pénible à faire avec tes gifles, là, avec tes coups de poing.
Oh, c'est moi ! Non !
C'est sérieux ce que je suis en train de te dire. Je dors encore un coup, puis c'est fini, je meurs. Je comprends, faudra bien que je dorme un jour ou l'autre.
Voilà, d'abord, il y a Basile Matin, un jeune gars qui est arrivé de Fastao Laupo, le symbole de l'avant-dernier sommeil. Et maintenant, il sait que s'il dort encore, il va mourir. Et le problème, c'est qu'à son âge, on aimerait bien avoir toute la vie devant soi. Ensuite, il y a Igor, un autre jeune gars qui travaille un peu et puis qui fait également des études. Mais il n'a pas d'argent et il s'ennuie. Alors l'histoire de Basile, même s'il n'y comprend pas grand-chose, l'intéresse diablement. Enfin, il y a Johnny Gott, un peu journaliste bénévole, un peu détective et pas mal voyou. Il s'intéresse beaucoup aux histoires qu'il ne regarde pas et celle de Basile le passionne. C'est un film de Alain Guiraudy qui date de 2003, certes, mais qui mérite son petit détour parce que, bah, justement, il nous emmène au détour des gens, des vrais gens, des gens rigolos. Et puis surtout, j'ai aimé, moi, ce qu'il racontait, cette notion de là, ce qui est important, c'est de rêver. Le film a été sélectionné, c'est une parenthèse qui n'en est pas une, à la quinzaine des réalisateurs. Et on a parlé du Festival de Cannes, qui fait ce qu'il peut d'ailleurs, hein, et les autres festivals. Alors, je fais exprès, je suis un peu plus dans le cinéma que dans le théâtre, mais je pense à tout ça, bien sûr. Et je pense en fait aux personnes qui travaillent pour ces festivals. Je ne pense pas qu'à l'œuvre artistique qui a son chemin, c'est vrai, mais et toutes les personnes qui sont derrière et qui ont travaillé toute une année et qui là se retrouvent avec une année blanche, eux aussi. C'est compliqué pour ces salariés-là, évidemment. Alors, rappelons-le, de toute façon, ce qui compte, c'est le rêve. Je voulais juste dire, rêvons bien, rêvons vraiment. « I had a dream », disait Martin Luther King, et ça a fait des grandes choses. Intéressant cette musique de western, je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter, le monde d'utopie est le monde ancré dans un réalisme habitué qui surtout ne se réinterroge pas. Tiens là par exemple, ben, maintenant que nous en sommes au dernier week-end confiné, que nous en sommes à compter les heures avant la libération, que va-t-il se passer dehors dans le monde d'après? Allons-nous nous regarder les uns les autres en chien de faïence? Continuer l'esprit de dénonciation, rarement autant de corbeaux n'ont croissé, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah ben si, oui, si, pendant la guerre. Alors c'est ça, dès que l'être humain se sent menacé, son instinct de survie agit, il déploie tous ses sens au service de sa personne et il écrase les autres. Il y a pourtant un ingrédient qu'il pourrait mesurer et développer, un seul, son intelligence. S'il se pose, l'être humain, s'il observe ses voisins, entre en empathie, va vers le partage, il sera grandi plus fort. Par exemple, il peut penser plus grand, ne pas penser en termes de rentabilité immédiate, mais penser à demain. Eh ben non, là on vient de se prendre une crise sanitaire dans la gueule. Oui, j'utilise le mot gueule à bon escient, hein, parce que nous avons à l'instant déterminé que l'être humain laisse paraître son côté bassement animal. Donc, on vient de se prendre une crise sanitaire dans la gueule et on pense tout de suite à revenir à hier. Repère, avant, habitude, pas de réflexion. Donc, je m'explique, avant, dans les injonctions professionnelles des médecins des hôpitaux, c'est un exemple. Il y avait le nombre de lits nécessaires, le nombre de patients, le nombre de médicaments, le nombre d'analyses biologiques. Les médecins des villes, on ne les a pas exemptés, hein, mais à l'hôpital, c'était vraiment probant. Il y a même des gens qui sont payés pour un nouveau métier. Enfin, ça fait quelques années qu'il existe. Ils comptent. Ce ne sont pas des comptables. Ils doivent optimiser pour que la santé soit rentable. Alors qu'en fait, ça c'était hier ou avant hier d'ailleurs. C'est pas loin, hein. On s'est habitué. Certains d'entre vous reconnaîtront les prémices. Mais, par exemple, tenez, Matin Brun. Est-ce que vous avez lu Matin Brun de Franck Pavlov? N'hésitez pas à acheter ce tout petit truc. C'est quelques pages. Ça coûte 2 euros. Vous tapez Matin Brun, Franck Pavlov sur Internet et vous pouvez l'avoir en quelques clics. Oui, je ne suis pas favorable forcément à l'achat par Internet, mais là, franchement, ça vaut le coup. Prenez-en par dizaines et puis distribuez-les. Il s'agit de la naissance d'un monde totalitaire, d'un régime dictatorial. Il explique par une petite histoire très simple. Il raconte comment ça passe, comment ça commence. Doucement, doucereusement même. Soyez gentils, il faut se géolocaliser, c'est pour votre bien-être. Allez, il faut se séparer des chiens bruns, c'est ce que raconte la Matin Brun. De chiens bruns en chiens blancs, on va passer aux amis des chiens blancs, et puis puisque tu as connu et rencontré un chien blanc, bah c'est toi qui vas te faire emprisonner puis qui va finir la tête en bas. Moi, je vous invite à acheter absolument cette petite merveille parce que simplement, ça nous ouvre les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est un petit peu comme la grenouille dans sa cocotte minute, là, et il fait chaud. Ah, l'eau est bonne, hein, l'eau est bonne. Ah oui, mais elle est un peu chaude. Ah oui, mais elle est bonne. Ah, mais elle est un peu chaude, hein. Oui, un peu chaude quand même. Puis jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc je reviens à mes moutons d'hôpitaux. À peine la fin de la crise pointe-t-elle le bout de son masque que ça y est, les chefs de service sont appelés à les mêmes comptes qu'avant. Alors, combien de lits, par exemple? Moi, j'ai un petit frère en situation de handicap, il va en centre de jour, où il y a des kinés, notamment, qui le prennent en charge. Il y a vraiment un système médicalisé, bien sûr. C'est un milieu quasiment hospitalisé. Hein. Eh bien, il n'a pas le droit de partir en vacances plus de 15 jours par an. Et vous savez pourquoi? Ben, c'est parce que s'il ne remplit pas son lit, on va sucrer les subventions de la structure. Donc, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas gérer ça. Et l'humain? Bah, l'humain, bah, ça coûte 100 000 dollars. Ah non, 13 000 euros. 3 barils de pétrole. Qui dit mieux? 50, moi j'en veux 50. Allez, jette-le, personne n'en veut. Et une fois, deux fois, trois fois, être jugé, c'est perdu. Bon, c'est pas compliqué, hein. Pensez en termes de rentabilité. Dans La République du Bonheur de Martin Krimp, il y a une énumération des libertés. La liberté d'écrire le scénario de ma propre vie, la liberté d'écarter les jambes et cela n'a rien de politique, la liberté de faire l'expérience d'un horrible trauma, on l'a fait, la liberté de tourner la page et de passer à autre chose, la liberté d'avoir l'air bien et de vivre pour toujours. Bon, bah c'est fait. Lire du crime, ça fait du bien. Lire du crime et ne rien comprendre, sentir la bataille intérieure, voir du crime sur un plateau de théâtre, voir des comédiens et se dire qu'on n'a rien compris. Sortir et dire c'était nul, j'ai rien compris. Mais je suis libre et j'ai pas aimé. J'ai rien compris, j'aime pas le théâtre. Ou se dire j'ai rien compris, c'était nul, ce sera mieux la prochaine fois, mais quand même, il m'a dérangé. Ouf, c'était bien. J'ai été dérangée parce que je les ai sentis énervés. Tiens, ils étaient coincés dans leur liberté et se bouffaient leur liberté. Ah bah tiens, j'aimerais pas qu'on m'abîme mes libertés. On m'abîme mes libertés, c'est pour ça que j'ai pas aimé. bon, je ne vais pas vous faire une conférence sur la critique, ni sur l'accès à la culture, ni sur l'utilité de l'art. Ça ne sert à rien et c'est tant mieux. C'est ma dernière chronique de confinement. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de rien, c'est trop tard. Nous allons reprendre nos activités de hamster et bientôt retourner manger des pop-corns en salle de cinéma. Ah oui, on ira voir le dernier film divertissement et on reprendra la télé-réalité parce qu'on ne pense pas et qu'on n'a pas à dire si on aime ou si on n'aime pas. On recommencera juste à se moquer des cons qui sont assis sur leur canapé à manger des pop-corns et à regarder la télé-réalité. Dans un autre monde, on aurait pu se voir soi-même et comprendre que c'est nous. Dans un autre monde, on aurait même pu éteindre cette télé-là et prendre les gens par la main pour partager autre chose avec eux dans un monde qui rêve, pas un monde qui dort. Un monde qui rêve. Dormir, c'est pas pareil, on vous l'a dit en début de chronique. Et on retournerait au cinéma pour partager des idées, pour partager des regards. Et on aurait le droit de pas aimer même. Ah tiens, tenez, ça me donne envie de vous lire. Alors c'est un petit moment de bonheur. Je ne sais pas si vous l'avez vu au Cinoche, d'ailleurs. Ça a été l'inspiration d'un film génial de Samuel Benchetrit. C'est Les Chroniques de l'asphalte. Je vous fais un petit bout de lecture. Alors, une après-midi, on allait au cinéma. Je vous commence au bon endroit quand même, ça serait mieux. Une après-midi que nous allions au cinéma, je proposais à Diego d'emmener sa sœur avec nous. Peu enthousiaste, il alla trouver Nina dans sa chambre et 2 minutes plus tard, ils sortirent tous les deux, nous retrouver sur le palier. Nina restait bien à sa place de petite sœur qu'elle ne ramène pas, mais le léger sourire qu'elle gardait figé sur son visage montrait que mon idée avait été bonne. Nous étions 7, Diego, Karine, Daniel, Ricky, Dédé, Nina et moi, à prendre le bus pour le cinéma du centre. Ils prennent le bus, ils ont un problème avec le bus, puis finalement ils y arrivent. Cette histoire nous avait fait rater les séances des films qui nous intéressaient. Et il n'en restait plus qu'un, Les Nuits Fauves. Personne n'avait vraiment envie d'aller voir ce film. Et lorsque Daniel demanda à la caissière de quoi ça parlait, un homme bisexuel qui a le sida. Nous décidâmes d'aller plutôt à la salle de jeu. Au moment de partir, Nina dit à son frère qu'elle préférait aller voir le film. Diego n'aimait pas trop l'idée que sa sœur aille toute seule au cinéma. Mais il n'aimait pas non plus qu'une fille traîne avec une bande de gars comme nous dans une salle de jeu où le sang pouvait couler à n'importe quel moment. Finalement, il donna de l'argent à Mina pour le film et des bonbons et lui donna rendez-vous 2 heures plus tard devant le cinéma. 2 heures plus tard devant le cinéma. Mina fut la dernière à sortir et je remarquai tout de suite qu'elle n'avait pas son joli sourire sur son visage. Elle semblait préoccupée et nous rejoignit sans se presser. « Bah alors, tu t'es endormie ou quoi ?»« Bah non, j'ai regardé le générique jusqu'au bout. »« Bah il t'a plu le film ?» Mina leva ses jolis yeux vers Diego. Oh, « J'ai adoré !» Le lendemain, en voyant Diego se préparer une boîte de raviolis, je lui demandais des nouvelles de sa sœur. Elle est retournée voir le film d'hier. « Ah bon ? Comment ça se fait ?»« Bah, je sais pas, c'est bizarre de voir un film comme ça 2 fois. » Le surlendemain, pendant que nous étions à écouter la nouvelle adaptation de « Still Loving You » de Scorpion par Diego, Mina entra dans la chambre sans frapper. Elle portait son manteau. « Bon, j'y vais !»« Tu vas où ?»« Au cinéma. »« Bah, voir quoi ?»« Les Nuits Fauves !» Putain, tu l'as déjà vu 2 fois ce film. Ça te plaît des histoires de PD ou quoi? C'est pas une histoire de PD. Bah c'est quoi alors? Bah c'est une histoire d'amour, impossible. Ouais, bah compte pas sur moi pour que je te file du fric cette fois. Maman m'en a laissé. Et Mina referma la porte pour retrouver son film. Karim, qui voyait Diego contrarié, lui demanda « Mais qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle aille revoir le film? T'as bien vu L'Arme Fatale 13 fois. » Ouais, mais c'est pas pareil. L'Arme Fatale, on sait ce que c'est. Bah, c'est quoi? Bah c'est de la merde, quoi. L'Arme Fatale, c'était le film préféré de Daniel. Bah, tu dis que L'Arme Fatale, c'est de la merde, toi. Non, mais c'est de la bonne merde, quoi. Ah, Daniel était rassuré. Diego continua. Alors que l'autre, c'est une histoire d'amour impossible, comme elle a dit. Ça va lui compliquer la tronche, toutes ces conneries. Dédé, qui connaissait les femmes comme on connaît le huitième satellite de Pluton, prit la parole. Mais t'inquiète pas, toi, t'as vu L'Arme Fatale 13 fois. T'es pas devenu un flic qui tue 500 personnes par minute. C'est pas parce que ta sœur, elle voit plein de fois son film qu'elle va avoir des histoires d'amour impossibles. Et Riton ajouta, ouais, ou qu'elle va vivre des trucs de PD. Il fut conclu que L'Arme Fatale était un chef-d'œuvre, Les Nuits Fauves, un film de PD, et Still Loving You, repris de plus belle. Voilà, c'était juste histoire de vous donner envie d'aller au cinéma. C'était la chronique de l'urgence, la chronique qui n'a plus le temps, la chronique qui n'a plus le droit, peut-être bientôt, putain, pas demain, la chronique qui n'a même pas ouvert le débat sur les intermittents, on s'en fout, il n'y a pas que des intermittents du spectacle, il y a des intermittents de la restauration, et c'est juste une histoire de contrat, d'organisation de temps de travail, de légalisation de droits de salariés d'un jour. Si on arrêtait de penser division, et si on pensait en additionnant, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis, Saint-Exupéry. Vous connaissez ça, cette citation-là? La vraie citation, j'entends, hein, parce qu'en fait, on a toujours ça, cette torsion. Ah, zut, il faut que je vous la retrouve en plus. Le temps que je me remette, que je vous la retrouve, je l'avais pourtant photographiée tout à l'heure, je l'ai ici. La vraie citation, « Je suis si là des polémiques, des exclusives, des fanatismes. Je puis entrer chez toi sans m'habiller d'un uniforme, sans me soumettre à la récitation d'un Coran, sans renoncer à quoi que ce soit de ma patrie intérieure. Auprès de toi, je n'ai pas à me disculper, je n'ai pas à plaider, je n'ai pas à prouver, je trouve la paix, comme à Tournus. Au-dessus de mes mots maladroits, au-dessus des raisonnements qui peuvent me tromper, tu considères en moi simplement l'homme. Tu honores en moi l'ambassadeur de croyances, de coutumes, d'amour particulière. Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente. Tu m'interroges comme l'on interroge le voyageur. » Eh bien oui, ça c'est Antoine de Saint-Exupéry. Vous savez, celui qui a fait Le Petit Prince. Allez, j'en profite. Je ferai trop de mal à m'en empêcher. Surtout qu'on n'est pas encore, on va pas encore tout de suite retourner au cinéma. Donc, je vous laisse quelques petites pistes pour vous amuser.
Tu vas entrer à l'Académie Verte, car j'ai conçu un projet. Ton projet de vie. La minute de l'heure du jour, le jour de la semaine du mois, le mois de l'année de ta vie.
Waouh.
Rien ne sera laissé au hasard.
Non, je suis ici, là-haut.
Tu deviendras une adulte formidable.
Merci, maman. Je voulais juste vous rendre votre dessin.
Il te plaît pas ?
Non, il me plaît beaucoup. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui.
Moi qui croyais ne jamais trouver personne qui veuille entendre mon histoire.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Faisait quoi cet enfant dans le désert? On n'a jamais évoqué l'existence d'une vie sur aucune planète.
D'un astéroïde. L'astéroïde BC-112.
Wow.
Le petit prince, il aimait beaucoup les couchers de soleil.
Tu as terminé tes devoirs de la journée?
Pas tout à fait fini. Je me suis fait un ami.
Si tu étudies à fond et que tu te conformes rigoureusement à ton projet, tu pourras passer du temps avec ton nouvel ami l'été prochain.
Tiens, regarde. Les étoiles se sont levées.
Eh oh, viens jouer avec moi.
Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. Et si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Lorsque le moment sera venu pour moi de m'en aider, je devrais partir tout seul.
Tu sais piloter un avion, toi? Accroche-toi! Je crois que moi, j'ai plus trop envie de grandir.
Grandir, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. Tu deviendras une adulte formidable.
J'ai aimé cette façon de nous introduire le film par une jeune fille. Ça change un peu. Vous savez bien que c'est l'un de mes, faux de bataille. Allez, cette fois-ci, je rends le micro, l'antenne et le casque sans masque. Je rends la parole et je retourne vaquer à mes occupations, à ma dose de vacuité nécessaire. Comme le champ se met en jachère. J'ai pas piscine, pas encore. Mais j'ai quoi être partie pour quelques heures encore. Camille et Hans Zimmer ont fait la musique de ce film Le Petit Prince, le dernier que je vous ai fait écouter, que Romain vous a fait écouter, pardon, c'est Romain qui est aux manettes. Et j'ai juste envie de vous laisser avec cette musique, Suis-moi, juste pour rêver, juste pour penser à tout ça. Pensez au monde de demain, on a encore quelques heures.
S'il vous plaît, dessine-moi un mouton.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche les bouts. Suis-moi, on y est presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. J'espère suis-je, le sais-tu, suis-moi. Ton sosie, salut, suis-moi. Et si moi c'était toi.
À l'instant, l'artiste Camille Suis-moi, issu du film Le Petit Prince, le dessin animé aussi, que Elvire, notre chère Elvire, vous a présenté il y a quelques instants avec sa chronique Billets pour le ciné, que vous pouvez retrouver également la semaine prochaine hein, en podcast dans la rubrique Silence sur le site de radiohdr.net. N'hésitez surtout pas, en tout cas, on a passé vraiment un très très grand moment avec Elvire.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Allez, après ce billet d'humeur, partons avec la poésie japonaise, le haïku du jour qui sera présenté aujourd'hui par Kanjura qui est en CM1 à l'école Marot située sur les Hauts de Rouen qu'on écoute à l'instant sur le mix des cultures.
La falaise très haute, le ciel bleu joli m'éblouit autant qu'il le faut. Kanjura.
Projet Poésie, réalisé dans le cadre d'un jumelage avec les élèves de l'école Marot et la compagnie Saëla, Nicolas Lelièvre, Grégoire Landais et Céline Gouel.
Ravi de vous retrouver en cette belle journée de ce vendredi. On va continuer notre émission puisque dans quelques instants, on aura le plaisir de retrouver Théo, un jeune habitant, citoyen de Sotteville, âgé de 17 ans, qui viendra nous parler de sa vie de confinement. Et puis, nous aurons aussi, tout de suite, on va retrouver notre invité du jour. Il se nomme Serge Boyer. C'est le directeur des caisses primaires d'allocation maladie de Seine-Maritime. On parle tout de suite du contact tracing, un dispositif qui sera mis en place dès ce lundi 11 mai. Alors là, c'est un dispositif qui va être au plus proche des anciens patients atteints du Covid et peut-être de futurs patients. Parce que le but étant de connaître un petit peu l'entourage des personnes qui ont fréquenté les personnes atteintes de Covid. Mais surtout, Monsieur Boyer, à quoi ça va servir justement ce dispositif contact tracing?
Sortie de confinement avec l'augmentation des interactions sociales laisse à craindre une circulation du virus. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif de suivi, de protection, de tests et d'isolement des personnes qui vont être malades, qui vont attraper la maladie pendant cette période. Et c'est ce qu'on va appeler le contact tracing. Donc c'est un dispositif qui va fonctionner comme une fusée à trois niveaux. Le premier niveau, qui est l'entrée en fait dans le système, va se faire avec les médecins généralistes qui vont avoir en face d'eux ou en téléconsultation un certain nombre de personnes qui vont avoir des signes de la maladie. De là, comme cela est envisagé, c'est que ces personnes seront systématiquement testées. Vous savez, un petit test avec l'écouvillon qu'on met dans le nez qui permet en fait de savoir si quelqu'un est malade, atteint du Covid-19 ou non. À partir du moment où des gens vont être identifiés comme étant malades, va rentrer une deuxième phase. Le deuxième étage de la fusée qui va être géré par l'assurance maladie où nous allons reprendre contact avec la personne qui a été déclarée malade. Nous allons faire le tour avec elle de l'ensemble de ses contacts au cours de la période précédente Hein, alors voilà, donc il y a comment dire, une grille de questionnement hein, pour s'assurer que c'est vraiment un contact, c'est pas quelqu'un qu'on a frôlé dans la rue, voilà. Mais donc essayer de recenser ça et derrière de prendre contact avec l'ensemble de ces personnes pour qu'elles-mêmes puissent faire le test et s'assurer qu'elles ne sont pas malades ou alors qu'elles sont malades. Et à ce moment-là, on rentre dans une mécanique qui refait intervenir les médecins généralistes et les laboratoires. Hein. Donc c'est un dispositif extrêmement complet qui s'appuie sur un troisième étage qui est géré par l'Agence régionale de santé, puisqu'on va avoir, on va repérer un certain nombre de malades dans le département, et l'Agence régionale de santé, elle va regarder s'il n'y a pas des foyers particuliers où l'épidémie va apparaître. Hein. C'est ce qu'on appelle dans le langage les clusters, et donc de pouvoir intervenir, de pouvoir isoler les personnes, mesurer, faire des tests, etc., et s'assurer que ces foyers sont maîtrisés, qu'il n'y ait pas d'extension de la maladie. Donc en fait, c'est une opération qui est tout à fait nouvelle, inédite dans ses modalités et inédite en France. On n'a jamais mené d'opération comme ça, d'une telle envergure, et c'est à cela que nous sommes appelés à partir du 11 mai. Hein. Donc c'est bien une articulation entre ces trois niveaux qui vont intervenir. Bien entendu, il y a une coordination en lien avec la préfecture, hein, puisque vous savez que le préfet de chaque département est en charge de l'organisation de la sortie du confinement. Et c'est ce qui va permettre, hein, c'est à la fois un marathon, c'est-à-dire qu'on part pour longtemps, hein, ça ne va pas s'arrêter dans quelques jours, ça peut durer plusieurs semaines, et en même temps c'est une course contre la montre, puisqu'il faut très rapidement, avec les personnes malades, pouvoir identifier les cas contacts et de pouvoir avoir cet échange avec chacun des cas contacts pour engager les tests et s'assurer que les personnes ne sont pas malades.
Pour les personnes qui ont été en contact avec ce virus, vous dites que c'est un dispositif complet, mais est-ce que ce sera un dispositif complexe à mettre en place ?
C'est forcément, à partir du moment où on met plusieurs acteurs en liaison, c'est forcément complexe, hein, parce que vous comprenez bien que dans la première phase, c'est l'ensemble des médecins généralistes, c'est les laboratoires d'analyse médicale, les laboratoires d'établissement, des laboratoires aussi qui sont dédiés à la réalisation de ces tests. Ce sont aussi, ce sera également des établissements de santé. Hein. Il n'y a pas les établissements de santé, notamment par les services d'urgence, vont potentiellement être concernés aussi par cette identification. C'est cette équipe de l'assurance maladie qui va travailler, hein, je le dis, l'équipe va travailler 7 jours sur 7. Voilà, hein. Donc ça veut dire qu'on sera amené à contacter des gens du lundi au dimanche. Potentiellement, et puis c'est l'Agence régionale de santé en lien avec la préfecture. Donc c'est forcément complexe, hein. C'est un sujet parce que c'est nouveau aussi. Hein. Très honnêtement, on n'a jamais fait ça, donc on essaye d'envisager toutes les situations, toutes les liaisons, toute la complexité de l'organisation pour que le 11 mai matin, nous soyons prêts à démarrer dans le département de Seine-Maritime.
Alors ça va monopoliser à peu près combien d'agents au sein de la caisse primaire d'assurance maladie qui iront se déplacer ou qui iront justement au contact téléphonique des anciens patients du Covid-19 ?
Nous mobilisons en première intention 70 personnes à peu près qui vont démarrer, hein, donc qui vont être formées à ça. Alors, je le dis parce que le terme de brigade a été utilisé pour qualifier ce dispositif. Alors, on n'est pas une brigade d'intervention, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au domicile. Hein. Ce ne sont que des contacts téléphoniques et pas du tout d'intervention à domicile. Hein. D'ailleurs, on n'est pas habilité à ça. Nous serons habilités par la loi à justement pouvoir assurer ces contacts téléphoniques avec les personnes malades et les cas qui auraient été repérés dans l'entourage et dans les contacts de la personne malade.
Vous le disiez, dispositif unique, c'est vrai que c'est assez particulier, hein, voilà, pour tout le monde en ce moment de se réadapter. Je sais qu'en ce moment vos locaux sont quasiment fermés, en tout cas très très peu de personnes sont dans vos locaux à Rouen au niveau de la CPAM. Du coup, comment vont s'effectuer ces appels téléphoniques ?
Nous sommes comme n'importe quelle entreprise dans ce pays, c'est-à-dire nous organisons selon les recommandations qui sont données par les pouvoirs publics et pour l'essentiel l'équipe sera en télétravail. Quelques personnes qui seront sur site parce qu'elles ne peuvent pas télétravailler, soit pour des raisons techniques, notamment des gens qui habitent dans les zones blanches. Malheureusement, ça existe. Non, voilà, on a quelques personnes qui seront sur site, mais sinon, pour l'essentiel, les équipes seront en télétravail.
Ce contact tracing, pour vous, vous pensez que ça va durer à peu près combien de temps, ce dispositif ?
Je serais honnêtement bien imprudent et bien incapable de vous dire combien de temps. Ça va dépendre de la manière dont le virus va se mettre à circuler. Hein, très honnêtement, nous n'avons pas de scénario très précis sur le sujet. Hein. Pour l'instant, la Seine-Maritime et la Normandie ont plutôt fait partie des régions qui ont été moins touchées par la maladie. D'ailleurs, c'est pour ça que la Seine-Maritime est en vert pour l'instant sur la carte de sortie de confinement. Et donc, on ne sait pas si la sortie de confinement va nous amener immédiatement un très fort afflux, un afflux moyen ou un afflux modéré de malades. Ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le collectif, la collectivité, le service public se mobilise sur le sujet. Mais le premier moyen pour que le virus ne circule pas, c'est qu'on continue tous collectivement, individuellement, dans nos milieux personnels, dans nos milieux professionnels, à faire en sorte que le virus ne circule pas grâce aux gestes barrières. Port de masque, se laver les mains, assurer les distances entre les gens, ça sera presque le meilleur dispositif, en tout cas ce que j'ai décrit, qu'en deuxième rideau, dès lors qu'on aura des malades. Mais l'objectif, c'est quand même qu'on ait le moins de malades possible pour éviter une vague qui soit trop forte, trop longue, et forcément qui mettrait très en tension notre système de santé, et particulièrement notre système hospitalier.
Comment le vit en ce moment la caisse primaire d'assurance maladie? Beaucoup de traitements de dossiers ont pris du retard, hein, on le pense, comme toutes les administrations en tout cas. Et on a cette impression aussi que peut-être le gouvernement vous met au pied du mur et de vous dire du jour au lendemain, bon bah aujourd'hui, vous vous occupez de ça. Comment ça s'est mené en tout cas ces échanges avec le gouvernement?
Eh bien, écoutez, d'abord, ils ont été menés au niveau national parce que ce dossier est préparé entre les équipes du ministère de la Santé, l'équipe rapprochée autour du Premier ministre et puis les différents ministères et notre caisse nationale. Donc, c'est à ce stade-là que les choses se préparent, s'organisent. Moi, ce que je souligne, c'est que, honnêtement, mener une opération comme ça est d'envergure. Il faut avoir une capacité, des collaborateurs, une capacité de mobilisation et que, globalement, depuis plusieurs années, l'assurance maladie, les caisses primaires ont su montrer que sur des dossiers extrêmement importants, on avait cette capacité à mener ces projets. Et c'est peut-être ça qui a conduit les pouvoirs publics à estimer qu'on avait la capacité très vite à se mobiliser, à organiser les choses. Je dois dire qu'en interne, la première équipe que nous avons réunie à distance, bien sûr, on ne les a pas réunis dans une salle, pour leur présenter l'organisation du projet, comment on allait travailler et ce que nous allions faire, et très mobilisés, très motivés, en se disant ben, voilà, c'est une œuvre collective, on y participe et on y intervient avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement à la fois personnel et collectif. Donc, vous savez, nous, on ne se pose pas vraiment la question de dire c'est normal que les pouvoirs publics prennent des décisions. Cette organisation a quand même été concertée avant qu'elle ait fait l'objet des annonces par le Premier ministre. Et là, maintenant, effectivement, nous sommes depuis la semaine dernière dans une course contre la montre sur l'organisation, l'articulation avec tous les acteurs, hein, les médecins généralistes, les laboratoires, la préfecture, l'ARS, etc. Et en interne avec toutes nos équipes pour qu'on soit prêt le 11 au matin et faire partie de cette organisation collective qui va assurer le suivi et la protection, le test de toutes les personnes malades ensuite de confinement.
Concrètement, dès le 11 mai au matin, les personnes qui ont été détectées positives au Covid-19 seront systématiquement appelées par téléphone par vos collègues.
Oui, tout à fait. Alors, ce sera peut-être pas le 11 matin à 8 heures, parce que peut-être que les premiers cas repérés dans ce dispositif le seront dans la matinée par les médecins. Il y aura l'examen de laboratoire. Et on va dire qu'à partir de mardi, c'est là où on aura les premiers cas et que le système se mettra très opérationnellement en place.
Alors, Monsieur Boyer, quelles dernières informations il faudrait communiquer le plus largement possible ?
Je crois que le message qu'on peut faire passer pour tout un chacun, c'est après le 11 mai, continuons à appliquer les gestes barrières de manière stricte, tels qu'ils sont présentés en termes de prévention dans les différents spots. Hein, je vous le rappelle, port des masques, se laver les mains, la distance sociale, la distance avec les personnes. Et honnêtement, on aura gagné si le virus se met à moins circuler, et lorsqu'il va se mettre à circuler, qu'on arrive à vraiment à circonscrire cette vague de la meilleure manière possible, je pense que ça sera la victoire collective de tous et de chacun.
Merci beaucoup, Monsieur Boyer. Je le rappelle, vous êtes directeur des caisses primaires d'assurance maladie de Seine-Maritime. En tout cas, prenez soin de vous.
Merci, vous aussi, et bon courage, et à bientôt.
Ben oui, je sais que vous étiez en train de vous ambiancer un tant soit peu sur ces sonorités du combo Pacheco à l'instant, le titre Lupita. Et si vous kiffez, si vous aimez, j'espère que vous avez peut-être chasamé ce titre. Ou alors, si vous n'avez pas eu le temps, rendez-vous sur le Mix des Cultures, Radio HDR Principe Actif, pour retrouver un petit peu tous ces titres en programmation.
Le Blabla Mix sur HDR et Principe Actif, 99.1 et 102.4.
Et nous revenons dans nos blabla mix, en ce vendredi 8 mai. Ça fait bien plaisir et c'est le moment, même pratiquement à quelques minutes de cela, de pratiquement nous quitter. Mais avant de nous quitter, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, on a un invité, un habitant de Sotteville-lès-Rouen, un jeune, puisqu'il a 17 ans, donc c'est un jeune, effectivement. Il s'appelle Théo. Bonjour Théo, comment vas-tu ?
Bonjour,
voyez-vous. Ouais, très très bien, je te remercie. En tout cas, ça fait vraiment très plaisir de t'avoir avec nous, par téléphone, certes, mais une prochaine fois, je l'espère qu'on pourra t'accueillir chaleureusement dans nos locaux, en tout cas.
Oui, en espérant, oui aussi.
Alors, on souhaitait en tout cas s'entretenir avec toi parce qu'il était intéressant aussi que tu avais cette envie, en tout cas, de partager ta vie pendant ce confinement, parce que tu es aussi en cours, tu es au lycée à 17 ans. Hein. Moi, je voulais savoir un petit peu comment se déroulait ta scolarité pendant ce confinement.
La scolarité, c'est très compliqué suite au confinement, on va dire. On rencontre pas mal de problèmes d'ailleurs. Pour comprendre les cours, parce qu'on n'a pas d'explication avec les professeurs, ils nous fournissent un peu trop de travail, il n'y a pas de date demandée en fait. Donc c'est vraiment, on a vraiment du mal à comprendre, même sur la connexion des sites comme l'ENT, on n'a même pas forcément accédé aux documents, donc c'est vraiment très compliqué.
Du coup, s'il y a un peu moins de cours, ça va être quoi tes activités? Comment tu occupes tes journées?
J'occupe mes journées avec du sport. Donc du sport, c'est avec de la danse, de la musculation. Après, j'aime aussi me divertir.
Tu es danseur. Tu pratiques quoi plutôt comme danse?
Alors, je danse sur du zouk, des danses latines. Après, j'écoute un peu tout, donc mais c'est sur ces danses-là que je danse plus fréquemment, quoi.
D'accord, donc si tu danses un peu le zouk, le compas ou tout ça, danse latine, on m'a dit ça, tu vas pas encore en boîte là?
Non.
Non, parce que j'allais dire, du coup, ça te manquait un petit peu d'aller dans les clubs pour danser ces musiques-là. Quels sont en ce moment les événements qui t'ont marqué pendant ce confinement?
On voit pas mal de cas comme des bagarres où les gens, ils ont pas forcément un comportement assez approprié, on va dire. Donc, il y a vraiment des choses qui m'ont marqué d'ailleurs. Donc,
D'accord, donc tu as remarqué des bagarres liées au confinement ?
Oui, oui, d'ailleurs, oui.
D'accord.
C'était assez quand même violent, on va dire. Mm-hmm. Donc, les gens se bagarrent juste pour des paquets de pâtes ou autre, donc je trouve ça vraiment inutile d'ailleurs. Donc,
Alors, puisqu'on est à quelques jours, hein, un week-end nous sépare de ce déconfinement, qu'est-ce que tu vas faire en premier à la fin de cette crise sanitaire ?
Bah, je pense revoir mes proches, d'ailleurs, voir comment ils vont. Ouais, c'est ça. Ça va être la première chose que je vais faire, donc aller les voir. Parce que ça fait quand même longtemps que je les ai pas vus, donc je pense que c'est une priorité.
Grosse coupure avec la famille, les amis, petit peu.
Ça manque quand même l'entourage.
Pour l'instant, on ne se fera pas des chèques, on ne se fera pas des câlins, hein, mais ça viendra. Puisqu'on est à quelques jours du déconfinement, est-ce que tu as des craintes ?
Bah, les craintes, j'ai quand même peur à une deuxième vague ou quand même j'ai peur quand même de pas mal de choses. Ça va pas être comme avant en fait. J'ai quand même pas mal de craintes.
Pourquoi tu penses ça ? Tu regardes beaucoup les informations là ?
Après, j'évite les informations parce que j'ai l'impression qu'ils disent pas tous la même chose. Mmh. Donc, je sais pas, c'est assez compliqué. Ça m'a mis comme une angoisse, on va dire.
Alors, du coup, c'est vrai que c'est une période assez anxiogène, d'angoisse, d'anxiété. Est-ce que ça a été aussi un temps pour toi de réfléchir ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience de confinement ?
Ça m'a permis de retravailler mes différents projets. Mmh. Prendre du temps pour moi, à réfléchir à ma vie en globalité et à me remettre un peu aussi sur mes études. Donc ça m'a apporté quand même pas mal de choses.
Tu fais quoi en études ?
Je suis en troisième prépa médecine.
Et justement, ce serait quoi des projets d'idées là ? Comme tu dis, ça t'a permis de réfléchir un peu à ton avenir ?
J'ai retravaillé mon projet en fait pour peut-être créer ma salle de sport. J'ai regardé les différents lycées, donc je regarde, ça commence à m'intéresser. Donc,
Théo, puisque voilà, je pense que c'est pas forcément évident aussi pour toi de parler à l'antenne, même si t'apprécies plutôt ça, et franchement, ce sera avec grand plaisir qu'on t'invitera dans nos locaux. T'as peut-être des petites dédicaces, des messages à faire passer que tu souhaiterais divulguer à l'ensemble de nos auditeurs, auditrices du Mix des Cultures ?
Je voudrais d'ailleurs dire merci aux deux éducatrices qui m'ont permis de faire ceci. Et je voudrais aussi, au cas où mes professeurs m'écouteraient, leur passer le bonjour aussi.
Les profs de quel lycée ?
Je suis professeur du lycée Jean-Baptiste Colbert à Tiqueville.
Et les dédicaces ? T'as des dédicaces encore ?
À ma meilleure amie, et ça va s'arrêter là. À ma meilleure amie Audrey.
Ah ben voilà, on fait des bisous en tout cas à tout le monde, des coups de coude plutôt, sans se toucher bien entendu. Et oui. Puis, bien sûr, dédicace aussi à tes éducatrices qui t'ont accompagné pendant cet échange, en amont de ces échanges. Remercier les éducs du CAPS en l'occurrence.
Oui.
Et bien justement, puisqu'on arrive à la fin de notre émission de ce Blabla Mix, tu nous as choisi aussi un morceau, hein, puisque voilà, c'est toi l'invité aussi, et tu nous as proposé quel titre ?
Je vous ai proposé « Moi je prouve » de... je sais plus comment il s'appelle, mais...
Il s'appelle Take. Alors justement, pourquoi ce morceau, mon cher Théo ?
Je sais pas, quand je l'écoute, j'ai comme un sentiment de bien-être, enfin, ça me permet de réfléchir à autre chose, donc... C'est ma chanson du moment.
En tout cas, mon cher Théo, ravi d'avoir partagé ce petit moment avec toi à l'antenne d'HDR et de Principe Actif. Bon déconfinement, en tout cas.
Merci à vous aussi.
Prends soin de toi et on se voit très, très bientôt, j'en suis persuadé.
D'accord, en espérant aussi.
En tout cas, chers auditeurs, auditrices, nous, on va se retrouver, alors moi-même, on ne va pas se retrouver, puisque là, voilà, on clôturait cette édition, normalement, du Blabla Mix spécial Covid. À partir de lundi, vous pourrez retrouver les collègues Ousmane, Damien et puis Mister Anto qui seront de retour sur le Mix des Cultures. Donc, dans le Blabla Mix, à partir de lundi 17h, vous retrouverez aussi l'équipe de Principe Actif en direct de leur studio. Peut-être, je ne sais pas, c'est vrai que je ne les ai pas appelés. Hein. Je vous fais des bisous les poteaux de Principe Actif. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver Timothée à partir de 8h dans Le Pire Reste à Venir ce lundi matin. Nous, on va vous souhaiter un très très bon week-end. Prenez soin de vous, en tout cas les amis, et on va se quitter à l'instant avec le titre sélectionné par Théo. Le titre de l'artiste Tech, Moi je prouve. Et puis, on se fait des bisous, on se fait des boujoux, bien sûr virtuels. Ouais, vous savez, prenez soin de vous. Ciao la famille.